L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Paris, 30 août 1997. Il est 15h20 quand Dodi Al-Fayed et Diana se posent sur l'aéroport du Bourget dans l'après-midi. La journée est chaude, mais plutôt nuageuse. Il leur reste moins de 24 heures à vivre dans la soirée. Ils dînent au restaurant du Ritz, place Vendôme. Tandis qu'ils prennent la route pour rentrer dans l'appartement de Dodi, rue Arsène Houssaye, à 5 minutes à peine de là, des paparazzi sont en embuscade. Alors pour tenter de les semer, Dodi demande au chauffeur Henri Paul de changer d'itinéraire. Une décision qui leur sera fatale. En s'engouffrant à vive allure dans le virage du tunnel du pont de l'Alma, la voiture fait une première embardée, bloquée par une Fiat Uno blanche qui roule, elle, à 50 km par heure. Henri Paul aura beau freiner, braquer, contrebraquer, rien n'y fera. La Mercedes dans laquelle est assise Diana va s'encastrer dans le 13e pilier du tunnel. Malgré les secours arrivés sur place en à peine 6 minutes, malgré les massages cardiaques, Diana, transportée à l'hôpital de la Salpêtrière, s'y éteint à 4h25 du matin. La princesse des cœurs a rendu son dernier souffle à Paris, le 31 août 1997. Elle n'avait que 36 ans. Il est 4h25 du matin, c'est l'heure H de mon histoire. Si la vie de Diana, depuis ses fiançailles avec le prince Charles, a toujours été scrutée de très près, nous y reviendrons, les mois qui précèdent sa mort ont été particulièrement éprouvants. Séparés depuis 1992, Charles et Diana ne sont officiellement divorcés que depuis le 28 août 1996. Un an plus tôt, Lady Di est retombée amoureuse, follement même. L'élu de son cœur, qu'elle voulait réellement épouser selon certains, s'appelle Asnat Khan. Ce Pakistanais est chirurgien cardio-thoracique à l'hôpital royal de Brompton, à Londres. C'est d'ailleurs là qu'elle le rencontre, alors qu'elle accompagne son amie et confidente, Onag Tofolo. La veille, Asnat Khan a pratiqué sur Joseph Tofolo un triple pontage, mais victime d'une nouvelle hémorragie, ce dernier est repassé par la case urgence. Onag et Diana sont à son chevet quand débarque le chirurgien qui tente de convaincre son patient de se faire opérer à nouveau. Diana succombe immédiatement à son charme. Pourtant, le médecin ne lui adresse qu'un bonjour poli, ce qui intrigue la princesse autant que ça l'amuse. En effet, il est plutôt rare qu'un homme ne soit pas impressionné par sa présence ou subjugué par son charme. Le défi n'en est que plus intéressant aux yeux de Diana qui va véritablement faire le siège du bureau du docteur Khan. Elle lui rend des visites impromptues, souvent de nuit, cachées sous des perruques et des foulards. Elle veut percer le mystère de cet homme qu'elle a surnommé « Monsieur Perfection » d'après son ami Simon Simons. Monsieur Perfection, lui, est surtout amoureux de son travail auquel il se dévoue corps et âme. C'est d'ailleurs une des qualités qui plaît beaucoup à Diana. Elle admire réellement cet homme qui sauve des vies. Son obstination finit par être payante. Mi-septembre, Asnat Khan lui demande de l'accompagner chez son oncle et sa tante, où il doit récupérer quelques bouquins. Il est persuadé qu'elle refusera, mais à son grand étonnement, la princesse accepte avec enthousiasme. « Je ne pensais pas qu'elle accepterait de me suivre. J'ai été très surpris qu'elle me dise oui », expliquera-t-il des années plus tard, dans un entretien avec Scotland Yard. Précisant qu'après cela, leur amitié s'est transformée en relation. Très éprise, très romantique, Diana lui fait porter des fleurs et lui laisse des messages à l'hôpital, en se faisant passer pour une consoeur. On prétend même qu'elle serait rentrée plusieurs fois en douce chez son amoureux, en son absence, pour faire un brin de ménage et plier son linge. Non, évidemment, les tabloïds finissent par être mis au courant. Si Diana sait comment s'en servir, pour Asnat Khan, se retrouver à jouer au chat et à la souris avec des photographes avides de scoop est une nouveauté. Le chirurgien de 36 ans, soit 2 ans de plus que Diana, est un homme discret et, on l'a dit, entièrement dévoué à ses patients. En février 1996, après avoir accepté les conditions du divorce d'avec Charles, Lady Di s'envole pour le Pakistan. Qui ne se souvient pas d'elle tenant un enfant dans ses bras ou réconfortant des malades dans les hôpitaux? Car, officiellement, elle est à Lahore pour des œuvres de charité. Fonction qu'elle remplit d'ailleurs parfaitement, rien à redire. Mais elle en profite aussi pour rencontrer les parents de Monsieur Perfection. Et on ne peut pas dire qu'ils soient fous de joie à l'idée que leur fils ait une idylle avec cette femme mondialement célèbre. Et non musulmane. Pour les parents Khan, c'est non. Asnat n'épousera pas Diana. C'est un coup dur pour la princesse. D'autant plus dur que les tabloïdes ne les lâchent plus. Son divorce, tout juste prononcé, la liaison entre Diana et son beau chirurgien aux yeux de velours dans lesquels on pourrait se noyer, toujours selon son ami Simmons, fait la une de toute la presse people. Asnat s'éloigne peu à peu. C'est une terrible déception pour Diana, qui lui avait présenté ses deux fils, William et Harry. À son majordome, Paul Burrell, elle avait demandé qui pourrait les marier dans la plus grande discrétion. Ses illusions s'envolent définitivement en juin 1997, quand le médecin met fin à leur relation. Si elle est triste et meurtrie par cette rupture, Diana ne s'avoue pas vaincue. La guerrière, la stratège qui sommeille en elle, va se réveiller et tout faire pour tenter de le reconquérir. C'est là qu'entre en scène Dodi Al-Fayed, son dernier amant, celui qui perdra la vie avec elle le 31 août 1997 dans le tunnel du pont de l'Alma. Alors, remontons quelque peu le cours du temps, si vous le voulez bien. Nous sommes en 1986 et Diana est l'épouse du prince de Galles, Charles, depuis 1981. Deux enfants sont nés, William en 1982 et Harry en 1984. Mais personne n'est dupe. Le mariage bat de l'aile et Diana n'est pas heureuse. Elle traverse les affres d'une terrible dépression après son premier accouchement et souffre désormais de boulimie. Elle est triste. Elle se sent seule. Et ses deux garnements, encore bien jeunes, sont ses seuls rayons de soleil. En juin 1986, elle assiste à Windsor, à un match de polo, sport que pratique son mari, mais aussi Dodi. C'est donc là que la princesse rencontre pour la première fois celui dont le destin sera pour toujours lié au sien, Dodi Al-Fayed. Ils se rencontrent, certes, mais c'est tout. Pas de coup de foudre, pas de rendez-vous secret, non. Même si leurs pères respectifs sont amis de longue date, Dodi et Diana n'échangent rien de plus que quelques mots courtois. Du reste, à l'époque, le cœur de Dodi ne bat que pour Suzanne Gregar, une ravissante mannequin californienne à laquelle il est fiancé. Après avoir entretenu des nombreuses relations avec des actrices et des modèles, on parle de Brooke Shields, Winona Ryder et même Julia Roberts, il épouse Suzanne. Leur union ne durera que 8 mois et la jolie blonde restera la seule à qui Dodi passera la bague au doigt. Producteur de cinéma, Dodi est le fils de Mohamed Al-Fayed, richissime homme d'affaires égyptien qui s'est offert le Ritz à Paris, mais aussi les célèbres magasins Harrods à Londres. L'enseigne fournit les résidences de la reine Elisabeth II, de la reine mère, mais aussi du prince Charles. Et parmi les clients figure Lord Spencer, le père de Diana. Les deux hommes nouent une solide amitié, font affaire et, comme c'est de coutume dans ce milieu, profitent de leur réseau mutuel. Ouais, vous allez me dire, on s'éloigne du sujet, hein ? Eh bien, pas du tout. Vous allez bientôt comprendre pourquoi.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, ce sont les dernières heures, les derniers mois de la vie de Diana que je vous raconte. Comment l'amour a-t-il mené à la mort le 31 août 1997 à Paris ? Eh bien, nous allons y venir. Dodi et Diana se croisent donc une première fois en 1986 lors d'un match de polo. Ils sont présentés l'un à l'autre, sans doute par l'entremise de leurs pères respectifs, qui se connaissent de longue date. Ils s'apprécient. Mohamed Al-Fayed a réussi au-delà de tout espoir. Car s'il n'est pas né pauvre, il a à tout le moins grandi dans un milieu modeste. Mais il a de l'ambition et de l'entregent. En 1954, il épouse l'auteure saoudienne Samira Khashoggi, qui lui donne un fils, Dodi. Samira est aussi la sœur d'un riche homme d'affaires qui va l'introduire dans le milieu. Mais c'est surtout lorsqu'il devient le conseiller financier du sultan du Brunei, l'un des hommes les plus riches du monde, que Mohamed commence son ascension. En dépit de ses succès dans les affaires, de ses amitiés et de la reconnaissance dont il jouit à Londres, où il est arrivé en 1974, Mohamed Al-Fayed n'a jamais reçu la nationalité britannique. En présentant Dodi à Diana, cherchait-il, d'une manière ou d'une autre, à prendre sa revanche? Eh bien, certains l'ont affirmé. De son côté, le comte Edward Spencer, le père de Diana, n'a pas connu une vie de tout repos. Marié une première fois, à France Burke Roche, il se retrouve seul avec ses quatre enfants, Sarah, Jane, Diana et Charles, quand son épouse le quitte pour un autre. Le plus petit de la fratrie n'a que 3 ans. Diana en a 6. Les Spencer sont élevés par des nannies et si Diana aime profondément son père, elle le voit peu. Le comte, qui jouit d'une belle fortune, d'un titre de noblesse et de plusieurs propriétés de prestige, gère ses affaires à Londres. Et y côtoie donc, notamment, Mohamed Al-Fayed. L'amitié est telle entre les deux hommes que, selon certaines rumeurs, dans ses derniers instants, en 1992, Lord Spencer aurait demandé à Mohamed Al-Fayed de veiller sur Diana, qu'il savait malheureuse en ménage. Le père de la princesse de Galles s'éteint donc à Londres, au Wellington Hospital, le 29 mars 1992. Il y avait été admis pour une pneumonie. Il y meurt d'une crise cardiaque. À peine quelques jours plus tard, le 7 avril, Diana assiste avec ses deux garçons à l'avant-première du film Hook de Steven Spielberg. Si elle y serre les pinces de Robin Williams et Dustin Hoffman, les deux stars à l'affiche, elle y croise aussi le producteur du film, en l'occurrence, Dodi Al-Fayed. En somme, comme l'écrivait Libération au lendemain de la mort de Diana, le cinéaste a parrainé leur première apparition officielle. Ils ne font une fois encore que se croiser. Du reste, la vie de Diana en cette année 1992 est bien assez compliquée comme ça. Son mariage avec Charles est en train de prendre l'eau de toutes parts. Il a renoué avec son amour de toujours, Camilla Parker Bowles. Diana, elle, avouera plus tard qu'elle a entretenu une relation avec son moniteur d'équitation, James Hewitt. Les mauvaises langues affirment que ce serait loin d'être le seul coup de canif dans le contrat. ...1992... année noire donc pour Diana qui perd son papa en mars et se sépare de son mari le 9 décembre. Entre ces deux dates, un fait majeur: la publication du livre d'Andrew Morton, intitulé « Diana, sa vraie histoire ». Un coup de tonnerre dans le ciel de la monarchie britannique. D'autant plus retentissant qu'effectivement, Diana a, si l'on peut dire, fourni la matière première à Morton. Il le confirmera après la mort de la princesse, ce qui, bien sûr, dopera les ventes de son livre. Nous sommes donc en décembre 1992. À la une du magazine Point de vue, spécialiste des têtes couronnées, peut lire ceci: Charles et Diana, la déchirure. En Angleterre, c'est une affaire d'État, au sens premier du terme. En effet, c'est à la Chambre des communes que, le 9 décembre à 15h30, le Premier ministre John Major lit le communiqué envoyé par le palais de Buckingham. Le palais de Buckingham annonce aujourd'hui avec regret que le prince et la princesse de Galles ont décidé de se séparer, annonce John Major. Leur Altesse royale n'ont aucune intention de divorcer et leur statut constitutionnel n'en est pas affecté, Ils ont pris cette décision d'un commun accord et continueront tous deux à prendre leur part dans l'éducation de leurs enfants. Leur Altesse Royale poursuivront séparément la totalité de leurs engagements officiels. De temps à autre, ils participeront ensemble à des événements familiaux et nationaux. La reine et le duc d'Édimbourg, bien que très attristés, comprennent les difficultés qui ont conduit à cette grave décision. S'en prenant directement à la presse tabloïde et aux paparazzi, le palais ajoute « Sa Majesté et Son Altesse Royale espèrent tout particulièrement que les intrusions dans la vie privée du prince et de la princesse cesseront. Ils pensent qu'un certain degré d'intimité et de compréhension est nécessaire afin que leurs Altesses Royales puissent prodiguer à leurs enfants une éducation heureuse et sécurisante tout en continuant à s'investir de tout leur cœur dans leurs devoirs publics. » Voilà. Voilà, c'est dit. Charles et Diana se séparent. Un moment terrible pour les enfants, mais une victoire pour Diana, qui reste officiellement princesse de Galles. Elle perçoit en outre une indemnité de près de 20 millions d'euros, ainsi qu'une pension, tout en restant locataire de son double appartement au palais de Kensington, un lieu où elle vivra jusqu'à sa mort. De fait, les deux époux continueront chacun de leur côté, le plus souvent, à assumer leurs engagements officiels, à soutenir des œuvres de charité, à voyager de par le monde pour de nobles causes. Diana sourit. Elle a gagné, mais la voici seule désormais, en quête d'amour, toujours. On remarquera aussi que dans son communiqué, le palais précise bien que leurs Altesses Royales n'ont aucune intention de divorcer. Sauf que cela semble inévitable et que ce le sera bel et bien. En novembre 1995, une nouvelle bombe éclate, cette fois sur la BBC. Diana a accordé une interview à Martin Bashir dans le cadre de l'émission Panorama. Un rendez-vous immanquable pour les Britanniques qui, ce soir-là, va réunir 20 millions de téléspectateurs. C'est chez elle, à Kensington Palace, que Diana fait installer les caméras. Elle n'a prévenu personne de cet entretien, ni son attaché de presse, ni son secrétaire particulier. Lady Di, qui sait se montrer flamboyante et sexy dans ses apparitions publiques, surtout depuis sa séparation, a choisi la simplicité pour cette interview. Elle se met littéralement en scène, tailleur noir, t-shirt blanc. Les yeux fardés de noir, le regard triste, elle parle, sans filtre, semble-t-il. Et surtout, elle parle de tout. Boulimie, dépression, automutilation, tout y passe. Elle n'épargne rien, ni personne, dans la famille royale. À commencer par Charles. Nous étions trois dans ce mariage. Il y avait un peu trop de monde, dit-elle, évoquant frontalement la liaison de Charles avec Camilla Parker Bowles. Diana ne se donne pas pour autant le beau rôle, avouant publiquement sa liaison avec son moniteur d'équitation James Hewitt, qu'elle adorait, dit-elle. Les murs de Buckingham tremblent, mais Diana n'en a pas encore fini. À la fin de l'interview, évoquant le prince Charles, elle affirme ceci. « Je connais sa personnalité. Je pense qu'être roi lui apporterait d'énormes contraintes et je ne sais pas s'il pourrait s'y adapter. » Entre les lignes, elle vient de dire que Charles ferait bien de laisser sa place à William. Et puis il y a le jour choisi pour la diffusion de l'entretien, le 20 novembre, soit le jour exact du 48e anniversaire de mariage de la reine Élisabeth II avec le duc d'Édimbourg. La souveraine n'est prévenue que le matin même de la diffusion. Hors de question de bouleverser son agenda. Elle déjeunera comme prévu avec le roi Hussein de Jordanie et assistera le soir à un spectacle de variété. Ce n'est qu'une fois revenu à Buckingham que son conseiller, Robert Fellowes, lui fera le débrief de l'émission. Sa réaction ? Demander que l'on précise aux médias qu'elle ne regarde jamais Panorama. Enfin, dans un premier temps, car dès le lendemain, elle informe le Premier ministre, John Major, qu'un divorce est désormais inévitable. cette interview dévastatrice va rester dans toutes les mémoires et faire polémique pendant de longues années. Pourquoi ? Parce que Martine Bachir aurait piégé la princesse pour obtenir cet entretien hautement inflammable. Comment ? En alimentant les peurs de Diana et aussi une certaine forme de paranoïa. Bachir aurait fait croire à la princesse qu'elle avait été mise sur écoute, qu'elle était dans le collimateur de la sûreté de l'État, et même que Charles aurait contraint la nounou de leurs enfants, Tigui, à avorter après qu'elle fût tombée enceinte de ses œuvres. Après une longue enquête interne au sein de la très sérieuse BBC, la chaîne publique accepte de verser en septembre 2022 plus de 1,6 million d'euros à des œuvres caritatives liées à la princesse. La BBC s'est, en outre, engagée à ranger le document aux archives, à ne plus le diffuser et à ne plus le vendre à d'autres chaînes. Après ce long détour, nous revoici en 1996. L'interview choc à la BBC va accélérer le divorce, qui sera officiellement prononcé le 28 août. Si Diana a connu des aventures, celle qui va la bouleverser sera, comme on l'a dit, sa rencontre avec le chirurgien pakistanais Asnat Khan dès 1995. Pendant presque 2 ans, la princesse vivra une véritable idylle qui finira par une rupture douloureuse pour elle. La famille Khan ne veut pas de cette non-musulmane divorcée et Asnat ne supporte pas de vivre avec des paparazzi collés à ses basques. Juin 1997, clap de fin sur la belle histoire. Une fois encore, le chagrin s'invite derrière les lourds rideaux du palais de Kensington. Tel un bon génie, Mohamed Al-Fayed, qui a promis au père de Diana de veiller sur elle, lui envoie alors une invitation qui va totalement bouleverser le cours des choses. Puisque la voilà si malheureuse, pourquoi n'irait-elle pas passer quelques jours de vacances avec ses 2 fils sur son yacht, le Jonical, amarré à Saint-Tropez ? Diana accepte. Ce qu'elle veut, c'est du repos et du soleil. Et si en plus elle peut rendre jaloux Asnat Khan, ben c'est pas plus mal. La voici donc qui embarque à bord du Jonical avec William, 15 ans, et Harry, 12 ans. Ils sont bientôt rejoints par Dodi Al-Fayed, pratiquement fiancé à la mannequin Kelly Fisher, qu'il laisse à Paris pour aller saluer les invités officiels de son père sur le pont de l'imposant yacht acquis peu de temps auparavant pour la modique somme de 30 millions d'euros. Ben évidemment, les paparazzi sont aux aguets. Il y a des clichés à prendre. Diana en maillot de bain, ça se vend bien. Et elle en joue volontiers, se disant que ça fera peut-être bisquer le médecin qui l'a quitté. Et puis elle tombe sous le charme de Dodi. C'est en tout cas ainsi qu'on nous le vend dans la presse à scandale. Puis la presse tout court, tant l'histoire ressemble à un conte de fées. Diana est belle, bronzée, heureuse. Elle sait qu'elle se fait shooter de tous les côtés. Comme pour faire plaisir aux photographes, elle affiche sa collection de maillots, plonge depuis le pont du bateau et fait du jet-ski avec ses enfants. Dans son livre, sorti en janvier 2023, le prince Harry, le fils cadet de Diana, se souvient de cet été-là et de Dodi. Un type plutôt sympa, trouvais-je, pour ma part. Willy et moi avions tout récemment fait sa connaissance, écrit-il. Et il poursuit. Est-ce à notre retour, après cette folle expédition en jet-ski, que l'ami de maman avait fait son apparition ? Non, sans doute juste avant. J'avais compris que maman était avec son nouvel ami. C'était le mot que tout le monde utilisait. Pas petit ami, ni amant. Ami. Le 10 août, quand le Sunday Mirror publie la photo de Diana embrassant Dodi sur le pont du Jonical, il devient clair pour tout le monde qu'il est plus qu'un ami. Mais pour la petite histoire, The Kiss, comme fut surnommé le cliché, a été vendu, tenez-vous bien, 4 millions de dollars. Et le Sunday Mirror a fini par avouer qu'elle avait été un peu retouchée.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, nous vivons les derniers instants de Lady Di, disparue tragiquement dans un accident de voiture le 31 août 1997 à Paris. Alors qu'elle voulait rentrer à Londres, son petit ami Dodi Al-Fayed l'a convaincue de faire un crochet par la ville lumière. Détour qui lui sera fatal. « Après Saint-Tropez, tandis que William et Harry rentrent en Grande-Bretagne, Diana et Dodi Al-Fayed poursuivent leurs vacances, désormais en amoureux. Direction la Sardaigne et ses eaux turquoises, toujours à bord du yacht du père Al-Fayed. Vous vous souvenez, Dodi était sur le point d'épouser Kelly Fisher. Celle-ci apprend par la presse que son futur époux file le parfait amour avec Lady Di. Alors, elle fait ses valises et retrouve sa maison de Malibu. Le mois d'août touche à sa fin quand Dodi et Diana regagnent la France. La princesse voudrait rentrer directement en Grande-Bretagne pour retrouver ses deux fils qui séjournent au château de Balmoral en Écosse chez leurs grands-parents, la reine Élisabeth et le duc d'Édimbourg. Mais Dodi parvient à convaincre Diana de faire un crochet par Paris. Le Gulfstream 4, le jet privé de la famille Al-Fayed, en provenance d'Olbia, en Sardaigne, se pose sur le tarmac du Bourget. Il est 15h20. Évidemment prévenus, des photographes les attendent déjà à l'aéroport. Le couple pousse la porte du Ritz à 16h35. Propriété de Mohamed Al-Fayed, le palace parisien de la place Vendôme les accueille comme il se doit. Il n'y reste pourtant pas très longtemps, puisqu'à 19h, ils sont déjà rue Arsène Houssaye, dans l'appartement luxueux de Dodi. Le couple se repose, se douche, se change et puis s'apprête à ressortir pour aller dîner chez Benoît, un restaurant étoilé du Marais. Mais vu la quantité de paparazzi prêts à tout pour obtenir toujours plus de photos de Diana avec son nouvel amoureux, Dodi change de programme. C'est décidé, ils iront dîner au Ritz. Retour place Vendôme donc sur le coup de 21h25, avec toujours ces motards, appareils photo en bandoulière, qui zigzaguent pour tenter d'immortaliser le moment. Au Ritz, nouveau changement de programme. Ils sont censés s'attabler au restaurant L'Espadon, mais le service de sécurité est inquiet. En effet, dans la salle du restaurant dînent deux clients qui ne sont pas des habitués. Les gros sacs plastiques qui sont déposés à leurs pieds ne sont pas rassurants. Qu'à cela ne tienne. Dodi et Diana prennent l'ascenseur. En atteste une photo de la caméra de surveillance qui fera elle aussi le tour du monde. Direction, une suite où ils pourront manger tranquillement. Pourtant, les deux inconnus de l'Espadon n'étaient que deux simples touristes, comme le prouvera ensuite l'enquête. Il est 21h10. Quand le couple se décide à quitter l'hôtel. Pour donner le change, Dodi a laissé devant l'entrée du Ritz sa propre voiture, une Mercedes. Ainsi que, pour parfaire l'illusion, la Range Rover de ses gardes du corps. En réalité, le couple sort par une porte plus discrète à l'arrière de l'hôtel. Là, une autre Mercedes les attend. À son volant, Henri Paul, le chef de la sécurité du Ritz. Côté passager, Trevor Rhys-Jones, un des gardes du corps de Dodi. La princesse et son amoureux prennent place à l'arrière. Hélas, le subterfuge ne fonctionne pas vraiment, puisqu'à peine en route, ils sont pris en chasse par ces satanées motos. Il est 20h, et à cette heure-là, le trafic dans Paris est enfin fluide. Le trajet ne devrait pas prendre plus de 5 minutes. Exaspéré par les flashs, Dodi demande à Henri Paul de changer d'itinéraire. L'idée, c'est d'emprunter des voies moins éclairées pour empêcher les paparazzi de shooter, de préférer les petits carrefours aux grands axes. Après la rue de Rivoli et la place de la Concorde, qu'il traverse à vive allure, Henri Paul emprunte le cours La Reine et le cours Albert Ier. Il a distancé les motards. Quand il amorce le virage du souterrain du pont de l'Alma, sa vitesse est estimée entre 118 et 155 km/h. Une véritable folie! D'autant que, pendant que Dodi et Diana dînaient, M. Paul, lui, il prenait l'apéro. Après l'accident, dans lequel il perdra également la vie, des analyses de sang montreront que son taux d'alcoolémie était de 1,75 g. De plus, on trouve des traces de Prozac, un antidépresseur qui, marié à l'alcool, en multiplie les effets. Au volant de sa Mercedes lancée à toute allure, dans le virage, il ne peut pas apercevoir la Fiat Uno blanche qui roule à la vitesse réglementaire de 50 km/h. Il tente de l'éviter, mais accroche le pare-choc. Le bolide est déstabilisé. Henri Paul freine tout ce qu'il peut sur 19 mètres. La voiture effleure ensuite le troisième pilier en béton armé du tunnel. Nouveau freinage, sur 32 mètres cette fois. Mais le chauffeur semble ne plus rien contrôler et va percuter de plein fouet le 13e pilier à 105 km par heure. La voiture fait un tête à queue puis s'immobilise enfin. Henri Paul meurt sur le coup. Bloqué par le corps du chauffeur, le klaxon de la Mercedes résonne en continu. À ses côtés, Trevor Rhys-Jones est dans un état critique. Diana est recroquevillée entre les deux sièges, dans le coma. Il ne faut que 6 minutes au SAMU pour arriver sur place. Bien moins pour les paparazzi qui filaient dans la voiture et qui sont là, en train de photographier l'horreur. La police les tient à l'écart pendant qu'on tente de réanimer les blessés sur place. Dodi ne montre plus aucun signe de vie, mais il est pourtant désincarcéré. On pratique un massage cardiaque, mais il est trop tard. Son décès est officiellement déclaré sur le lieu de l'accident à 1h30 du matin. Pour Diana, le premier rapport de police dit qu'elle est dans un état très grave, souffrant de blessures à la tête, à la poitrine, à la fesse droite, et qu'elle est tombée dans le coma. Il faudra 1h30 d'acharnement aux équipes du SAMU pour la sortir de l'amas de tôle. Son pied est coincé sous un siège. À 1h50, les équipes d'intervention décident qu'il faut emmener Diana à l'hôpital de la Salpêtrière, le plus à même de traiter ce genre de polytraumatisme. L'ambulance doit parcourir 6 km seulement, mais on ne peut dépasser les 10 km par heure sous peine d'aggraver encore l'état de la princesse. Sur le trajet, elle est victime d'un premier arrêt cardiaque. L'ambulance s'arrête. Le docteur Martineau parvient à faire redémarrer son cœur. Peu après son arrivée aux urgences, Diana, qui a perdu beaucoup de sang, est victime d'un choc hémorragique et d'un nouvel arrêt du cœur. Malgré de nouveaux massages cardiaques, d'abord externes puis internes, après qu'on lui ait ouvert la cage thoracique, les médecins ne peuvent plus rien pour la princesse des cœurs. Diana n'a que 36 ans. Son décès est déclaré à 4h25 du matin. Il est 2h du matin lors de cette nuit tragique. Le prêtre Yves-Marie Clochard-Bossuet est réveillé par un coup de téléphone. Au bout du fil, un responsable des urgences de l'hôpital de la Salpêtrière. On lui demande de venir le plus rapidement possible. L'homme d'église se demande si c'est un canular ou si son correspondant est ivre. Et donc il raccroche. Quand il a rappelé pour m'expliquer qu'il s'agissait de veiller encore, je lui ai répondu un peu plus sèchement que s'il fallait me déplacer en pleine nuit, je voulais au moins savoir de qui il s'agissait. Expliqué en 2021, le père Yves-Marie Clochard-Bossuet dans les colonnes du Figaro. C'était la première fois qu'il parlait à la presse. On lui annonce alors qu'il s'agit de la princesse Diana, la famille royale. Ce n'était pas du tout ma tasse de thé, même si j'ai beaucoup de respect pour la monarque, confiait-il encore. Quant à Diana, en toute sincérité, il avoue qu'il avait sur elle un a priori plutôt négatif. Or, quelques semaines avant le drame, il avait lu un portrait de Lady Di qui l'avait fait changer d'avis. J'avais été un peu retourné. On sentait qu'elle était sincère dans ses actions philanthropiques. Je me suis dit que je l'avais mal jugée. Et cela a été providentiel. Parce que pendant les longues heures que j'ai passées à son chevet, j'ai pu me rappeler de tout cela pour nourrir ma prière. Mais c'est surtout à la maman de deux petits garçons que cette nuit-là pense le père Yves-Marie. William et Harry sont toujours à Balmoral quand survient le drame. Le prince Charles les y a rejoints pour la fin des vacances. Ce dernier a évidemment été le premier à être informé de la mort de son ex-femme. Au petit matin, vers 7h15, il va réveiller le plus grand de ses garçons pour lui annoncer la terrible nouvelle. Charles et William pleurent ensemble. La disparition de Lady Di, puis s'en vont réveiller Harry, qui n'est encore qu'un enfant, pour lui annoncer à son tour que sa mère n'est plus. Le 31 août, vers 14h, Le prince Charles, accompagné des deux sœurs de Diana, Sarah McCorcadell et Lady Jane Fellowes, arrivent à Paris avec pour terrible mission de reconnaître le corps et de le ramener à la maison. Le cercueil de Diana est drapé de l'étendard royal quand il quitte l'hôpital pour la base aérienne de Villacoublay. Arrivé en Angleterre, le corps de Diana est d'abord confié à une morgue privée, puis emmené à la chapelle royale, au palais Saint-James. Les funérailles sont fixées au 6 septembre. En Grande-Bretagne et partout dans le monde, c'est le même effarement. Tandis que des milliers de Britanniques viennent déposer des fleurs devant le palais de Buckingham, la reine, elle, décide de rester à Balmoral. Dans un premier temps, elle croit que Diana ou Dodie ont été victimes d'un complot. Elle se serait d'ailleurs écriée, apprenant la mort de son ex-belle-fille dans un accident, « Quelqu'un a dû graisser les freins ». Si elle laisse entendre que c'est pour protéger ses deux petits-fils du tumulte médiatique qui sévit à Londres qu'elle reste en Écosse, l'attitude de la reine n'en est pas moins choquante aux yeux de nombreux citoyens. Car Diana n'était pas appelée la princesse des cœurs pour rien. Quant aux funérailles, à l'instar du frère de Diana, Charles Spencer, la reine pense que le mieux serait une cérémonie privée. Tony Blair, alors Premier ministre, ne voit pas les choses de la même façon. Lui a mesuré l'onde de choc provoquée par la mort de Lady Di. Il convainc donc Sa Majesté d'organiser des funérailles nationales. Celles-ci démarrent à Londres le 6 septembre 1997, à 9h08 précisément. Soit lorsque la cloche ténor de l'abbaye de Westminster annonce le départ du cortège de Kensington Palace où la dépouille de Diana avait été amenée après avoir passé 5 jours à la chapelle royale. Le trajet dans les rues de Londres dure 1h47. Ce sont des millions de gens qui rendent un hommage silencieux à celle qu'ils aimaient tant, quand passe devant eux la voiture à canon sur laquelle repose le cercueil. 3 couronnes de fleurs blanches, une de son frère, une de William et une de Harry, exhalent leur parfum aux côtés d'une lettre de Harry adressée à sa maman. À partir du palais Saint-James, l'ex-mari de Diana et ses 2 fils suivent le cortège. Derrière eux, 500 représentants des organismes de bienfaisance que soutenait Diana. Lorsque le convoi funéraire passe devant le palais de Buckingham, la reine incline la tête en signe de respect. Un geste qui étonne, mais qui réconcilie une partie de la population avec Sa Majesté. À 11h, la cérémonie débute à Westminster. 2000 personnes y assistent. Des hommes et des femmes politiques, bien sûr, mais aussi des têtes couronnées et des stars. On y voit Tony Blair, Margaret Thatcher, Tom Cruise, Nicole Kidman, Steven Spielberg et Tom Hanks, ou encore le roi d'Espagne ou Nelson Mandela. Et bien sûr, Elton John, qui chantera Candle in the Wind, une chanson qu'il avait réécrite en hommage à Diana. À Westminster, on chantera aussi God Save the Queen, l'hymne national. On entendra du Bach, du Verdi ou encore du Saint-Saëns. On estime qu'en Grande-Bretagne, 33,2 millions de personnes étaient devant leur petit écran ce 6 septembre 1997. À titre de comparaison, en septembre 2022, pour les funérailles de la reine Elisabeth II, il n'était que 27 millions. Des chiffres qui en disent long sur la popularité de la princesse Diana. Son dernier voyage, elle le fera dans l'intimité cette fois, vers Altor Park, dans le domaine du château qui est la propriété des Spencer depuis des siècles. Vêtue d'une robe de cocktail en laine noire, Diana tient dans ses mains des chapelets que lui avait donné Mère Teresa. Entre ses doigts, il y a aussi une photo de ses fils. Un cliché qui voyageait avec elle et que l'on avait retrouvé dans son sac à main. La suite, les polémiques, les théories du complot, les enquêtes, le comment, le pourquoi, alimentent encore aujourd'hui les colonnes des journaux. Car, même après sa mort, l'icône Diana continue de fasciner. Je voudrais être reine, mais dans le cœur des gens, disait-elle. Mission accomplie, Milady. Mission accomplie. Voilà pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Jacqueline Van Der Beek.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.